Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Avec Zone de Contact, montez sur le ring pour faire face aux évolutions géopolitiques mondiales. Au programme aujourd'hui, Joe Biden qui pourrait livrer des roquettes à longue portée à l'Ukraine mais refuse de fournir des avions, l'Égypte qui envisage d'augmenter les livraisons de céréales russes et l'Ukraine épinglée par une ONG sur l'utilisation de mines antipersonnelles. Emmanuel Macron n'a pas exclu la possibilité d'envoyer des avions de combat à l'Ukraine. L'homme politique français Florian Philippot commentera les derniers propos du président français et les conséquences de la stratégie occidentale vis-à-vis de l'Ukraine. Comment insuffler un second souffle à l'amitié franco-russe et à quoi aboutira la concurrence entre les deux pays en Afrique? Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, nous livrera un diagnostic de ses relations face à un contexte géopolitique compliqué. L'Allemagne s'apprête à retirer ses soldats du Mali. Souleymane Hamzat, consultant international béninois spécialisé dans les questions de défense, analysera pour nous cette décision et son impact sur la sécurité dans la région. Restez à l'écoute, notre voyage informatif commence! On démarre avec les États-Unis qui préparaient, selon Reuters, un nouveau programme d'aide militaire de 2,2 milliards de dollars pour l'Ukraine. Cette aide comprendrait pour la première fois des roquettes à longue portée, ont déclaré à l'agence deux représentants américains. Il s'agirait d'une bombe terrestre de petit diamètre, dont la portée dépasse 150 km. En même temps, Joe Biden refuse de fournir à Kiev des avions de chasse F-16. Cette déclaration fait suite à la nouvelle demande de Volodymyr Zelensky. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a donné les raisons de ce refus dans une interview à CNN. Pour M. Kirby, les USA viennent tout juste d'accorder une importante aide militaire à l'Ukraine qui permettra de mener de nouvelles offensives au printemps. Toutefois, ce nouveau soutien interroge. Parmi le matériel américain qui arrivera en Ukraine, on trouve les chars Abrams qui seront livrés au plus tôt fin 2023. Pourtant, M. Zelensky a mis en garde ses sponsors occidentaux en déclarant que même si les chars étaient livrés en août 2023, il serait trop tard. De quoi s'interroger sur les intentions réelles de Washington dans ce conflit. Pour rappel, la Russie a souligné à plusieurs reprises que les livraisons d'armes ne faisaient que prolonger le conflit et que les transports avec des armes devenaient une cible légitime. On poursuit avec un détour en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères de ce pays, Sameh Shoukry, a rencontré son homologue russe à Moscou. Le chef de la diplomatie égyptienne a déclaré que la Russie était un de ses fournisseurs de céréales importants et qu'il comptait sur de futures livraisons. Il a annoncé que l'Égypte souhaitait augmenter le volume des importations de blé russe et qu'elle voulait élargir les échanges commerciaux entre Moscou et le Caire sur d'autres produits. En plus du commerce, les perspectives de l'élargissement du partenariat russo-égyptien ont été au centre des discussions. Elles ont notamment concerné les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Enfin, il a également été question d'augmenter les échanges entre la Russie et l'Égypte en devise nationale. Pour M. Shoukry, cela faciliterait les transactions commerciales pour les opérateurs économiques. Si Moscou et le Caire ne sont qu'au début de ce processus, le ministre a assuré que l'Égypte souhaitait travailler dans ce sens. On termine notre revue d'actu avec l'Ukraine. L'ONG Human Rights Watch a constaté qu'en 2022, l'armée ukrainienne a tiré à de nombreuses reprises des roquettes avec des mines antipersonnelles sur des zones qui se trouvaient à ce moment-là sous le contrôle de l'armée russe. À Izium, dans la région de Kharkov, 11 personnes ont perdu la vie et 50 autres personnes, dont des enfants, ont été blessées suite au largage de ces armes. L'ONG précise que les forces et les autorités russes ont affiché et distribué des prospectus à la population locale afin de prévenir du danger de ces mines. Cela a été confirmé par les civils vivant dans la région à l'organisation. La Russie a déjà accusé à plusieurs reprises Kiev de ses crimes. Selon les autorités de la République populaire de Donetsk, depuis le début du conflit, au moins 89 personnes ont été blessées et une est décédée à la suite des explosions de mines antipersonnelles. Pour rappel, la mine Lepestok, pétale en français, est une arme miniature de conception soviétique. En raison de sa forme inhabituelle, elle peut être perçue par les enfants comme un jouet et cela la rend particulièrement dangereuse. Son apparence discrète fait qu'il est difficile de remarquer cette mine de 12 cm sur l'herbe ou les feuilles mortes. Contrairement à la plupart des mines antipersonnelles qui sont mises en place à la main, les Lepestok ne fonctionnent que lorsqu'elles sont dispersées à l'aide d'avions, roquettes et obus d'artillerie ou lorsqu'elles sont tirées depuis des véhicules ou lanceurs spécialisés. La convention d'Ottawa adoptée en 1997 interdit totalement les mines antipersonnelles et exige la destruction des stocks, le déminage des zones touchées et l'assistance aux victimes. Kiev a signé cette convention en 1999 et l'a ratifiée en 2005. Chers auditeurs, vous écoutez Zone de Contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dès à présent. Intéressons-nous au soutien occidental à l'Ukraine. La France a annoncé par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qu'elle enverrait 12 nouveaux obusiers Caesar à l'Ukraine. Auparavant, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il n'excluait pas la possibilité de fournir à l'Ukraine des avions de chasse en expliquant que rien n'est interdit par principe. Alors que Joe Biden a opposé son veto sur la question des avions F-15, plusieurs interrogations se posent. Pourquoi le président français n'est pas disposé à faire marche arrière? À quel jeu jouent les États-Unis? Comment mettre un terme au conflit? Pour répondre à ces questions, je vous présente Florian Philippot, homme politique français et président du parti Les Patriotes. Écoutez notre entretien. Bonjour à vous, monsieur Philippot. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va commencer avec Emmanuel Macron qui n'a pas exclu la possibilité de fournir des avions de chasse à l'Ukraine. Il avait déclaré à ce sujet, je cite, « Rien n'est interdit par principe. Par ailleurs, le ministre de la Défense français vient d'annoncer que la France allait livrer 12 nouveaux obusiers Caesar à Kiev. Dans le même temps, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne livreraient pas d'avions. Donc, ma question, à quel jeu joue Washington et pourquoi le président français ne semble pas vouloir faire marche arrière ?
Depuis le départ, il apparaît que Washington met subtilement de l'huile sur le feu de ce conflit, entretient le conflit, mais vise à ce que les partenaires en première ligne soient les pays européens, en quelque sorte, pour ne pas prendre de risques. C'est-à-dire que Washington est caché derrière son océan, entre deux océans d'ailleurs, ne va pas livrer d'avions, laisse Macron, la Pologne et quelques pays faire ce genre d'annonce, les Pays-Bas également d'ailleurs, j'ai vu. Washington joue un jeu très pervers, c'est-à-dire que d'un côté, ils entretiennent le conflit, ils mettent de l'huile sur le feu, ils financent Kiev massivement, et d'un autre côté, ils font prendre tous les risques, que ce soit les risques militaires, les risques énergétiques, les risques économiques et industriels, aux pays européens pour mieux les détruire et les spolier, ça me paraît assez clair. Quant à Macron, écoutez, Macron, on ne sait trop quoi en penser, c'est un personnage qui cherche toujours la lumière, qui est toujours capable de dire tout et son contraire, est-ce que ce qu'il dit à la moindre aujourd'hui, est-ce que ce qu'il dit correspond à une réalité concrète? Je n'en sais rien. Macron est d'abord et avant tout un parleur et ça n'est pas un acteur sérieux.
Très bien. On va passer à l'Ukraine toujours. Elle recevra très prochainement des chars Léopard après tant de discussions. Toutefois, les livraisons, aussi bien que la formation des militaires ukrainiens, devraient prendre du temps. Le président ukrainien, pour rappel, avait mis la pression en déclarant que si ces chars arrivaient en août 2023, il serait trop tard. Et donc, que cherche vraiment Volodymyr
aussi,
Zelensky?
Au passage, je fais remarquer, par rapport à la question précédente, que les États-Unis ont annoncé l'envoi de chars Abrams, mais pour la fin de l'année. Alors que les Britanniques et les Allemands ont annoncé des chars Challenger et Léopard, là pour normalement début avril. Donc on voit encore une fois les États-Unis font une annonce, mais en réalité laissent les pays européens y aller. Qu'est-ce que cherche Zelensky? Zelensky cherche manifestement à poursuivre le plus massivement possible la guerre. Il refuse les négociations, il refuse la sagesse de la discussion et il veut absolument mettre la pression sur les pays qui ont des armes et de l'argent pour en recevoir toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, des chars, des avions, des missiles longue portée, etc. Et beaucoup d'argent. Donc on voit qu'il joue un jeu très contre-productif et à mon avis qui ne sert absolument pas les intérêts du peuple ukrainien, qui ne sert pas les intérêts de la paix.
Très bien. On va passer maintenant avec l'Australie. La France et l'Australie ont envisagé de produire conjointement des obus d'artillerie pour l'Ukraine. Pourtant, en 2021, pour rappel, l'Australie avait rompu brutalement le contrat du siècle qui prévoyait l'acquisition de 12 sous-marins français. Et donc, comment la France peut-elle encore faire confiance à ce partenaire qui n'est pas fiable ?
Bah écoutez, c'est une vraie question. Que la France puisse renouer avec l'Australie sur des projets industriels ou même militaires, ça ne me choque pas. À la limite, il y a un nouveau gouvernement, on pourrait envisager de repartir en étant très, très prudent, parce qu'on sait ce qu'ils sont capables de faire. Donc, en étant très prudent, en étant très exigeant, on pourrait envisager de reprendre une relation bilatérale normale. Ça ne me choque pas vraiment. Ce qui me choque plus, c'est le fond de ce projet. Encore une fois, je crois que la dernière des choses dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'offrir de nouvelles armes et de nouvelles munitions au régime de M. Zelensky. Je crois que ça n'est pas raisonnable, je crois que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, et que la France et l'Australie se fourvoient en continuant de livrer des armes et des munitions à l'Ukraine à un moment où on devrait au contraire aller vers l'apaisement.
D'accord. On va passer maintenant à une autre déclaration qui a eu lieu récemment. Il s'agissait de Rob Bauer, qui est un des chefs du comité militaire de l'OTAN. Il avait déclaré que l'Alliance Atlantique Nord était prête à une confrontation directe avec la Russie. Et si vous voulez, la question que je me pose et que je vous pose à vous également, est-ce que l'on peut se fier à de telles déclarations ?
Écoutez, malheureusement, oui, on peut se fier à de telles déclarations parce que l'OTAN est peuplée de fous furieux. Et ce monsieur est quand même une personne importante au sein de l'OTAN. J'entends régulièrement les déclarations de son secrétaire général, M. Jens Stoltenberg, qui lui aussi passe sa vie à avoir un discours très guerrier, très provocateur, alors qu'on nous a vendu l'OTAN comme une structure purement défensive. On se rend compte que ça n'est absolument pas le cas. On n'a pas ce genre de propos quand on dit qu'on est vraiment une structure purement défensive. Donc, l'OTAN, vous savez, c'est une structure qui aurait dû disparaître avec la chute de l'URSS, en fait, avec la fin de la guerre froide au début des années 1990. Quand le pacte de Varsovie à l'Est a disparu, il aurait fallu que l'OTAN procède à sa dissolution. Bon, bah, l'OTAN n'a pas voulu le faire parce que c'est un instrument à la main des Américains. Donc aujourd'hui, elle doit chercher des raisons d'exister. Elle doit se chercher en permanence des ennemis. Elle doit se chercher des raisons des guerres, des raisons d'être. Et tout ça est un jeu extrêmement dangereux. Donc je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce genre de déclaration, malheureusement.
Justement, vous avez parlé des stratégies bellicistes de l'OTAN. La dernière, OTAN 2030, désigne clairement la Russie et la Chine comme ennemis. Pourquoi l'Alliance pousse-t-elle vers la guerre ?
La réalité, c'est que la Chine est désignée comme l'ennemi stratégique des États-Unis. Si vous regardez tous les documents américains, on voit que les Américains ont peur de se faire piquer leur première place mondiale par la puissance chinoise. Et ils ont bien identifié que la Russie et la Chine, mais quelques autres pays d'ailleurs, les BRICS, enfin la Russie et la Chine, travaillent de plus en plus étroitement ensemble. Et donc, ils utilisent l'OTAN, notamment, vous l'avez dit, à travers cette stratégie OTAN 2030 qui a été signée le 14 juin 2021, je le rappelle, donc avant la guerre d'Ukraine, hein, pour enclencher les hostilités. Parce que c'est une stratégie qui est extrêmement agressive, qui désigne des ennemis, la Russie, la Chine. Et on voit bien qu'en réalité, c'est une stratégie très contre-productive parce qu'elle a pour seul résultat de pousser les bras de la Chine de pousser la Russie dans les bras de la Chine et la Chine dans les bras de la Russie. Donc, si vous voulez, c'est évidemment, ça crée au contraire une coalition, une alliance entre deux grandes puissances et ça ne peut mener qu'à une montée des tensions et du chaos. Et on voit bien d'ailleurs ces derniers jours que la Chine a renforcé son soutien à la Russie avec ses déclarations récentes. Et d'un autre côté, que les États-Unis ont fait monter la pression, au contraire, contre la Chine. Donc, on sent que ça dérape. Et ça va. Cette stratégie, OTAN 2030, vise à poursuivre des intérêts américains, mais elle peut entraîner le monde vers le chaos. Et si elle est poursuivie jusqu'au bout, elle ne pourra entraîner que le monde vers le chaos. Or, nous aurions besoin, au contraire, d'un monde plus équilibré. Et nous devrions voir comme une chance l'émergence de la Chine et de la Russie comme puissance. La France devrait voir cela comme une chance, parce que ça permettrait de rééquilibrer le monde qui ne serait pas uniquement concentré à Washington. Ça serait plutôt une bonne chose et la France pourrait jouer un grand rôle là-dedans. Mais nous avons fait le choix, malheureusement, avec nos dirigeants qui sont vraiment soumis, eh bien, de nous mettre dans la roue de l'OTAN 2030 et des États-Unis contre la Chine et la Russie. Je pense que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
Justement, on va revenir aux dirigeants occidentaux et en particulier à M. Hollande, Mme Merkel et M. Porochenko. Ces derniers ont récemment fait des aveux, alors tour à tour, sur les accords de Minsk et reconnu que ce document devait simplement permettre à Kiev de gagner du temps. Et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que ces accords approuvés par l'ONU n'étaient qu'un paravent pour Kiev et les Occidentaux pour se préparer à un scénario de force dans le Donbass. Quelle est votre réaction suite à cette déclaration de Moscou et à ces aveux des garants européens des accords de Minsk?
On en doutait fortement, parce qu'on avait bien vu que la France et l'Allemagne, qui étaient censées garantir l'application des accords de Minsk, ne l'avaient pas fait. Lorsque le gouvernement ukrainien a attaqué ses propres concitoyens, compatriotes dans le Donbass, et puis les traiter très mal les populations russophones, n'appliquaient pas les accords de Minsk, eh bien, l'Allemagne et la France ne bougeaient pas le petit doigt, au contraire, continuaient de donner de l'argent à ce régime. Donc on voit bien que là, ils ont avoué, tout ça était une mise en scène, ce qui donne raison à ceux qui pensent que cette guerre, cette confrontation était planifiée depuis longtemps, non pas par la Russie pour le coup, mais par l'OTAN et par les puissances occidentales qui avaient décidé de faire de l'Ukraine une base arrière contre la Russie. Je crois que ça veut dire cela tout simplement. C'est l'aveu que se préparait une confrontation directe contre la Russie depuis plusieurs années et que l'Ukraine était au centre de cette stratégie.
Je vais terminer sur un message positif. Donc, sur un message de paix, je rappelle que vous avez sur Twitter récemment publié deux hashtags. Le premier, c'est non à la Troisième Guerre mondiale. Le second, pas d'armes pour Zelensky. Et donc, je vais vous demander de commenter ces mots du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Il a reçu le chef de la diplomatie égyptienne et son homologue par l'intermédiaire donc du chef de la diplomatie égyptienne. Il a reçu un message précis de la part du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, précisant que la Russie devrait s'arrêter et partir de l'Ukraine. Une autre proposition qui ne tient pas compte des préoccupations russes et que Moscou n'acceptera pas. Je rappelle cette citation de Sergueï Lavrov. « La Russie est prête à écouter toute proposition sérieuse, j'insiste sur ce mot, qui vise à résoudre la situation actuelle dans son contexte global. Et donc, selon vous, quelles propositions sérieuses pourrait-on faire pour mettre un terme au conflit ukrainien ?
Je crois que la première des propositions et le premier des engagements, en fait, très clair, c'est de dire jamais l'Ukraine n'entrera ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne, premièrement. Je veux dire, à partir du moment où on dit déjà ça et qu'on en prend l'engagement écrit, on va déjà détendre considérablement le problème. Bon, deux, il faut que, concernant l'Ukraine spécifiquement, nous reprenions des négociations, mais sérieuses, une fois qu'on a posé ces préalables, hein, donc pas d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, on reprend des discussions très sérieuses sur le statut de certaines localités dans l'est du pays. Il faut accepter que la Crimée soit russe, parce que c'est le cas de toute façon, et il ne faut pas revenir là-dessus, ça, il faut que ce soit acté et reconnu par la communauté internationale également, et il faut travailler sur le statut de neutralité de l'Ukraine. À partir de ce moment-là, je crois que toutes les parties pourront commencer à travailler sérieusement, aussi bien côté ukrainien que côté russe, et les autres pays qui y ont intérêt également, vers la paix. C'est quand même pas extrêmement compliqué. Par ailleurs, il faut se rappeler des engagements qui avaient été pris par l'OTAN au début des années 1990, qui ont été récemment confirmés aussi bien par l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Roland Dumas, que côté américain par différents documents. Il avait été pris l'engagement devant la Russie que l'OTAN ne s'élargirait pas à l'Est. Pourtant, ça a été fait. Ça a été fait vers les États baltes, ça a été fait vers les pays de l'Europe de l'Est. Donc il faut arrêter ce processus, arrêter tout processus d'élargissement de l'OTAN. Ça me paraît être à court terme ce qu'on peut faire. Pas très compliqué. Il faut juste de la bonne volonté et de la bonne foi. Du côté de la... À plus long terme, vous savez que je pense et nous pensons aux patriotes qu'il faut que la France quitte l'OTAN et que l'OTAN disparaisse. Et ça, c'est une autre question qui, à mon avis, ne pourra pas être résolue dans les mois qui viennent. Ça, c'est autre chose, mais je pense que ce sera à terme ce qu'il faudra faire.
C'était Florian Philippot, homme politique français, président du parti politique Les Patriotes. Il est revenu pour nous sur les dernières décisions de la France vis-à-vis de l'Ukraine, qui sont loin d'amener vers la paix. Chers auditeurs, Vous écoutez Zone de Contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints dès à présent. En Russie, les commémorations des 80 ans de la bataille de Stalingrad ont commencé. Durant la Seconde Guerre mondiale, un bataillon occidental a combattu aux côtés des soviétiques. Il s'agit du bataillon Normandie-Niemen, créé en 1942 à l'initiative du général de Gaulle. Au-delà de la victoire obtenue au prix de diverses batailles, il est devenu le symbole de l'amitié franco-russe. Toutefois, cette amitié semble battre de l'aile à cause du conflit ukrainien. La France ne soutient pas la Russie dans son opération spéciale en Ukraine. En Afrique, Paris, qui perd de son influence, accuse la Russie de tous les maux face au succès de cette dernière sur le continent africain. Quel est l'avenir de l'amitié franco-russe face à cette concurrence en Afrique? Comment insuffler un second souffle à cette amitié historique? Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, nous donne son point de vue sur Zone de Contact. Écoutez notre entretien. Bonjour Pierre de Gaulle, merci d'avoir accepté notre invitation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'escadrille Normandie-Niemen combattait les nazis aux côtés des soviétiques. N'est-ce pas un symbole de l'alliance franco-russe qui manque aujourd'hui?
Je pense que c'est un acte historique très fort qu'a voulu faire mon grand-père. C'est la seule unité combattante occidentale en Russie contre l'envahisseur nazi. Et c'est un symbole très fort de l'amitié franco-russe et des sacrifices qui ont été faits par nos deux pays pour se battre contre l'envahisseur commun. Je pense que c'est un symbole d'amitié qu'il faut garder. Elle fait partie de notre histoire, de notre destin commun. Je pense qu'il faut le garder à l'exemple. C'est très important dans votre pays. Et je pense qu'on doit rappeler aux générations futures qui, comme ce qui a été annoncé ici, ont une mauvaise information et une mauvaise connaissance de l'histoire. Et je pense également que l'Occident connaît mal la Russie, connaît mal le peuple russe, connaît mal votre culture. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler en vue de rapprocher nos deux pays, puisque nécessairement on doit revenir à la paix. Et la paix passe par ce travail de rapprochement, d'apprentissage et de connaissance. Et il faut aussi dénoncer les fausses vérités et la mauvaise perception que l'Occident a de la Russie.
La France a fait fermer les médias russes sur son territoire, y compris nous, Spoutnik. Une décision qui va à l'encontre des valeurs que prône la France. Qu'en pensez-vous?
Je pense que la France est un pays fondamentalement démocratique et que toutes les voix doivent pouvoir s'exprimer, quel que soit le sens, quelle que soit leur opinion. Ma foi, c'est aux Français, c'est au peuple de choisir, mais qu'il y a un droit fondamental, historique, de connaissances, d'informations en France, que ça fait partie de la démocratie, en tout cas de la bonne démocratie, et que le fait de faire taire, de museler certains médias, quelle que soit leur prise de position et quel que soit leur rôle, ne va pas dans le sens de la démocratie.
Vous avez dit que la population en France n'est pas d'accord avec les politiques que mène Macron. Est-ce que c'est possible que quelqu'un d'autre mène la France vers une autre politique? Et avec qui on pourra faire des accords?
Pour l'instant, le président Macron est président des Français, donc encore pour 4 années. Donc ce rôle lui appartient. Et je souhaite que ce rôle soit assumé de façon indépendante, avec des convictions et le respect de la parole donnée. Et je souhaite surtout que le président Macron ne soit pas exclu de la table des négociations par des positions trop fortes. Et que cette escalade de l'armement, cette escalade de la surenchère s'arrête pour que, au moins par le dialogue, puis ensuite l'entente et la coopération, on puisse arriver à une solution stable et durable, avec des garanties pour résoudre ce conflit. Mais nécessairement, il appartient au président actuel des Français de s'asseoir à la table de négociation, de faire entendre sa voix pour la résolution de ce conflit.
Et pour l'Afrique, maintenant, il y a cette concurrence entre la France et la Russie. Comment pensez-vous que dans l'avenir ce sera?
Alors c'est la volonté, occidentale de créer des blocs. C'est la volonté américaine de créer un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest. Ça n'est pas bon de créer ces blocs. C'est contraire à une solution diplomatique. Je pense aussi qu'il y a un sentiment. Solzhenitsyn à Harvard en 1978 disait qu'il y avait une certaine arrogance et un sentiment manifesté de supériorité de l'Occident vis-à-vis des continents africains. Je suis pour l'émancipation des peuples dans le respect de leur culture et de leur identité. Je souhaite évidemment que la France garde une bonne relation avec les pays d'Afrique, mais elle doit passer par une autre voie, elle doit passer par une écoute par des alternatives économiques. Je pense que la France doit jouer son rôle, mais il appartient aussi aux États africains de choisir librement ses partenaires.
Qu'est-ce qui doit se passer pour que la situation change selon vous ?
Je pense que l'opinion publique doit prendre conscience des enjeux. L'opinion publique doit être informée. L'opinion publique doit connaître les vérités, doit connaître aussi l'histoire. Et je pense que restreindre l'information de l'opinion publique n'est pas une bonne chose.
Nous espérons que vous allez dire les mêmes choses en France. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des conséquences ?
Alors la presse française, malheureusement, est très orientée. Et je regrette qu'elle ait perdu cette indépendance. Il y a cette déformation occidentale, je vous l'ai dit, de catégoriser, de coller des étiquettes. Et je pense que c'est de la désinformation. Heureusement, il y a des... les réseaux sociaux et Internet permettent de mieux diffuser la vérité.
C'était Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle pour Spoutnik Afrique. Il a dressé pour nous un état des lieux des relations franco-russes ainsi que ses perspectives d'amélioration. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Nous revenons très vite à l'antenne avec Souleyman Hamzat, consultant international béninois spécialisé sur les questions de défense et de lutte contre le terrorisme, qui se penchera sur la signification du retrait des soldats allemands du Mali. A tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique. De retour sur Spoutnik Afrique. Ici Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints dès à présent. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius souhaite que la Bundeswehr se retire du Mali encore plus rapidement que prévu. Initialement, Berlin avait annoncé qu'elle retirerait ses troupes d'ici à mai 2024. Qu'est-ce qui a précipité cette décision ? Est-ce que ce départ des militaires allemands va changer la donne dans la région ? Souleyman Hamzat, consultant international béninois spécialisé sur les questions de défense et de lutte contre le terrorisme, nous livre ses analyses sur Zone de Contact. Écoutez notre entretien. Bonjour Souleyman, merci d'être parmi nous aujourd'hui. L'Allemagne envisagerait de retirer de manière anticipée ses troupes du Mali. Précédemment, Berlin avait annoncé qu'elle se retirerait progressivement du Mali. Qu'est-ce qui a poussé à accélérer ce départ ?
Si l'Allemagne a décidé de retirer ses troupes de manière anticipée du Mali, il faudra déjà porter notre analyse, n'est-ce pas, sur le contexte géopolitique, stratégique et militaire, et un peu plus par rapport à ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Mais il faudra pas oublier en premier que la tête du ministère de la Défense allemande a changé depuis quelques semaines, ou disons depuis quelques jours. Et il y a eu passation de service entre l'ancienne ministre de la Défense, n'est-ce pas, et l'actuel qui vient de prendre, n'est-ce pas, les rênes de ce département ministériel. Ceci suite à un certain nombre de désaccords, n'est-ce pas, dans la politique, la manière, la vision, n'est-ce pas, de l'État allemand sur la politique, par exemple, de l'Ukraine, et plus particulièrement sur des dossiers aussi sensibles que celui, n'est-ce pas, de retrait des forces allemandes de la MINUSMA. Je vous le disais tantôt, il fallait avoir un droit de regard, non seulement sur le contexte géopolitique, parce que tout ce qui se passe du côté de l'Ukraine en ce moment-ci affaiblit davantage l'Europe dû aux sanctions et au surarmement, n'est-ce pas, de l'OTAN, disons le surarmement de l'Ukraine par l'OTAN, les États-Unis et autres, dans toujours cette conquête-là, n'est-ce pas, délibérée d'affaiblir la Fédération de Russie. Il ne faut pas oublier que la Fédération de Russie reste une puissance nucléaire à tout point de vue, à tout égard, et que sur le plan géomilitaire et stratégique, reconnaissez avec moi quand même qu'il serait quand même impossible, voire impensable qu'une puissance militaire à la hauteur, n'est-ce pas, de la Fédération de Russie puisse perdre, n'est-ce pas, une opération spéciale, voire une guerre comme cela est interprété du côté de l'Occident. L'autre paramètre, c'est que on ne sait pas En quoi s'engage l'Allemagne? Nous savons qu'aujourd'hui, du côté de l'Ukraine, il y a toutes les forces, un ramassis, n'est-ce pas, de ce qu'eux-mêmes, ils ont appelé la Légion étrangère internationale, dans laquelle vous trouvez des anciens militaires de presque tous les pays européens et des officiers de l'OTAN, etc., etc. Et il faille quand même que l'Allemagne ait un effectif costaud pour parer à toute éventualité. Je pense que le Mali, les enjeux du Mali ne sont pas aussi hauts que sont ceux actuellement de l'Ukraine. Et je pense que c'est dans ce sens-là, géostratégique, que le retrait est amorcé de manière précipitée. Je pense que à mon niveau, les enjeux sont ailleurs. Et l'avenir nous dira.
Quel est le rôle et la place de la présence allemande au Sahel? Est-ce que ce retrait va changer la donne pour la sécurité de la région?
Le rôle et la place de la présence allemande au Sahel s'inscrivaient, n'est-ce pas, dans le cadre de la force Takuba. N'oubliez pas qu'il y a eu plusieurs opérations précédentes, n'est-ce pas, qui ont connu des échecs, qui n'ont pas voulu être reconnus, n'est-ce pas, par l'État français. Des échecs qui ont conduit d'une opération à une autre. N'oubliez pas, au tout départ, il s'agissait de l'opération Serval, où il fallait à tout prix arrêter cette colonne, n'est-ce pas, soi-disant d'islamistes qui descendaient, n'est-ce pas, du nord du Mali sur la capitale Bamako. Les Français ont été demandés en contribution pour ne serait-ce qu'un appui aérien, un appui en renseignement. Et voilà que quelques mois plus tard, cette opération Serval a été transformée en opération Barkhane. Et nous avons vu les preuves de Barkhane pendant toutes les années, n'est-ce pas, que cela a duré. Ensuite, ils en sont arrivés à la force Takuba, n'est-ce pas? Et voilà ce que cela donne. Donc voilà les opérations, il y en a eu plusieurs comme ça, qui ont conduit à des échecs cuisants, n'est-ce pas, et qui n'ont pas permis à la France elle seule d'avoir une maîtrise du terrain stratégique et militairement parlant de des différentes opérations. La France étant dans le déclin, elle a dû, au niveau du Parlement européen, essayer d'acter un certain nombre de demandes, à savoir qu'il fallait, n'est-ce pas, européaniser ce conflit. Des pays comme la Suède, l'Allemagne, l'Italie et autres, l'Espagne, envoyaient des troupes, n'est-ce pas, dans le cadre de la force Takuba, pour appuyer, n'est-ce pas, les unités de l'aménagement. Mais on s'est rendu compte très rapidement, et raison pour laquelle d'ailleurs les autorités maliennes se sont plaintes que la France, plus particulièrement, qui avait pris cette initiative de convoquer les autres forces européennes, livrait, d'après les autorités maliennes, et formait, livrait du matériel aux terroristes et formait ces derniers. Cela a fait l'objet, n'est-ce pas, de plusieurs tentatives d'explication au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'a jamais donné suite favorable, n'est-ce pas, à la demande malienne de venir s'expliquer sur la place publique. Donc vous comprenez avec moi que la position, n'est-ce pas, le rôle et la place de ces nations qui ont accompagné la France dans ce que je qualifie d'aventure, de mésaventure, n'est-ce pas, à haut risque, s'est décrédibilisé totalement. Il n'y a plus de crédit sur tout ce qui concerne les forces de l'OTAN dans le Sahel. Aucun État aujourd'hui n'accorde de crédibilité à ces forces-là, vu qu'elles ne sont pas restées des forces impartiales. Elles sont allées dans tous les sens. Hein, comme je vous l'ai dit précédemment, la France même en tête, qui est accusée, n'est-ce pas, de financer et d'armer le terrorisme, n'a jamais su prouver, n'est-ce pas, sur le plan militaire, qu'elle était capable, n'est-ce pas, de mettre fin à ce terrorisme-là, qui d'ailleurs Vous avez suivi avec nous les années qui ont suivi l'implantation de la force servale Barkhane et Takuba, que voilà que le phénomène s'est complètement amplifié. Et ce, jusqu'à ce jour. Voilà ce que je pourrais vous répondre de ce qui est du rôle, et n'est-ce pas, de la place de la présence allemande. Mais est-ce que le retrait va changer la donne pour la sécurité de la région? Je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque vous constaterez avec moi qu'au profit, n'est-ce pas, de la République du Mali, la République sœur du Mali, que les autorités en place ont pris leurs responsabilités. Ils ont décidé non seulement, sur le plan, je veux parler purement militaire, de former les hommes, c'est-à-dire procéder à des recrutements à tous les échelons, n'est-ce pas, à tous les corps d'armée, je veux parler de l'armée de terre, l'armée de l'air, les frontières, la douane, etc., etc., de recruter du personnel, de les former sur la base des besoins nationaux, n'est-ce pas, de la politique directionnelle, sinon idéologique du pays, ce qui se fait, d'armer ces troupes, de les mettre en disponibilité opérationnelle et de permettre, n'est-ce pas, à l'État malien aujourd'hui de reconquérir les territoires que vous voyez. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, comme par le passé, de survoler le territoire allemand en toute impunité. On ne peut plus se permettre de circuler avec des colonnes, n'est-ce pas, de véhicules djihadistes comme cela c'était le cas. Les attaques sporadiques que nous connaissons ont fortement diminué. Les attaques de grande ampleur n'existent quasiment plus. Et en conclusion, nous nous rendons compte qu'au fait, les autorités maliennes ont eu raison de mettre un coup d'arrêt, n'est-ce pas, à la coopération militaire avec l'armée française. Donc, pour ma part, le retrait ne changera rien du tout, vu que déjà depuis le mois d'octobre, si vous avez suivi l'ancienne ministre, juste après le départ de la force, n'est-ce pas, Barkhane du Mali, ben le Mali aussi, comme d'autres pays comme l'Égypte, les Émirats arabes unis, et même la Côte d'Ivoire avait décidé de retirer la troupe de l'aménagement. Donc, cette force-là, auquel devait venir en appui, n'est-ce pas, la force Takuba, qui est en réalité une force de l'OTAN. Donc, vous voyez, c'est une situation assez complexe. Elle est délicate et je pense que il faudra faire très attention à toutes les analyses que nous faisons, mais rassurez-vous, le départ de la force allemande ne changera pas grand-chose à ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, vu que l'armée malienne a pris ses responsabilités, a formé ses hommes, les a éduqués, les a mis en disponibilité opérationnelle, et qui d'autre mieux que les Maliens pourront défendre leur territoire. Le matériel y est, l'équipement y est, le moral y est, la politique accompagne, et les politiques même accompagnent. Donc voilà, la population y est avec. Je pense que la donne, elle est réglementaire. Et cette fois-ci, vous avez devant vous une armée malienne totalement régalienne, républicaine, et qui est prête à parer à toute éventualité.
En avril 2022, la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, avait exhorté son homologue, Abdoulaye Diop, à prendre ses distances avec la Russie. Pourquoi la coopération du Mali avec la Russie pose problème pour l'Allemagne?
Eh bien oui, nous avons tous constaté, au même titre que vous, que la ministre des Affaires étrangères allemande, n'est-ce pas, Madame Baerbock, avait demandé ouvertement et exhorté, n'est-ce pas, son homologue malien, Abdoulaye Diop, n'est-ce pas, à prendre sa distance avec la Fédération de Russie, ce qui, ma foi, me semble une ingérence. C'est comme un dictat. C'est inadmissible pour nous autres panafricains qu'en ce moment-ci, que nous voyons encore ces nations-là se comporter de la sorte. Je pense qu'il faudra mettre un peu plus de bémol, un peu plus de sérieux dans la manière de s'adresser à nos dirigeants, à nos États, à nos populations. rien ne sera plus comme par le passé. Ça, c'est clair. Et que cela soit entendu à tous les niveaux, à tous les échelons décisionnels de la politique, n'est-ce pas, internationale. Le Mali reste aujourd'hui un État totalement indépendant, avec à sa tête des dirigeants qui assument leurs responsabilités et qui savent quels sont, n'est-ce pas, les besoins et aspirations de son peuple. D'ailleurs, on est gouvernement que quand, n'est-ce pas, on pense à assouvir les besoins de son peuple et qu'on se mette dans la ligne directionnelle, n'est-ce pas, et politique, n'est-ce pas, qui puisse permettre à cet État-là de tenir debout. Le Mali a pris ses responsabilités. Des injonctions de ce genre relèvent d'une autre époque. C'est un disque complètement rayé et il va falloir que aussi bien l'Union européenne, la France et d'autres puissent réfléchir à changer leur disque. Et pourquoi la coopération du Mali avec la Russie pose problème pour l'Allemagne? Mais je vous renverrai à ce que je vous ai dit à l'entame, n'est-ce pas, de nos discussions, que cela relève d'une politique géostratégique. Vous voyez aujourd'hui tout ce qui oppose, n'est-ce pas, l'OTAN, je veux dire l'OTAN partant, la France et plus particulièrement l'Allemagne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, à tout ce qui est dotation en armement au niveau de l'Ukraine. Donc l'Allemagne qui crie haut et fort qu'elle supportera l'Ukraine et vient d'ailleurs même de la doter en matériel de combat un peu plus lourd, je veux parler des chars. Et je pense que c'est des décisions assez lourdes qui doivent porter à réflexion, n'est-ce pas, un certain nombre d'enjeux au niveau de nos chefs d'État. Je pense que le Mali, puisqu'il s'agit de ce pays, a pris sa responsabilité, a choisi un camp. Puisque n'oubliez pas qu'il y a quelques mois, du côté des États-Unis, il a même été demandé aux pays africains de choisir leur camp. Et ceux qui se seraient prononcés contrairement à la politique, n'est-ce pas, occidentalo-américaine, voire de l'OTAN, seront punis. Le Mali a choisi son camp, il fait son bon chemin, il fait son chemin de combat avec sa population à l'appui. Et je pense que il va falloir, comme je vous l'ai dit précédemment, que compte tenu des réalités socio-politiques, économiques, culturelles, socio-culturelles, géostratégiques et militaires, que l'Occident revoie, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique avec leur manière de penser, de voir l'Afrique. L'Afrique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Hein. Je vous invite à aller au Mali, à questionner, n'est-ce pas, les populations, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est dans la sous-région ouest africaine en particulier, qui n'hésite plus à en découdre avec leurs dirigeants de manière ouverte, si tel est que leurs intérêts sont remis en cause. Vous voyez, donc, le problème n'est pas un problème décisionnel au niveau politique, c'est d'abord un problème des masses. Nous sommes à l'ère des masses et aujourd'hui, la politique, la nouvelle politique, n'est-ce pas, qui se veut celle-là du panafricanisme, est beaucoup plus dictée par les populations. Et je vous renvoie à côté de moi ici, au Burkina Faso, où c'est que les populations se sont levées pour demander le départ de la France, n'est-ce pas, française, qui est basé, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Donc vous voyez, de plus en plus, nos autorités respectent, en tout cas pour celles que nous connaissons du Mali, du Burkina, de la Guinée, Centrafrique aussi, respectent beaucoup plus les décisions, n'est-ce pas, populaires, des décisions prises à la va-vite et de manière politicienne. Donc c'est vous dire quoi, les rapports entre la Fédération de Russie et du Mali datent de très loin, ce sont des rapports assez profonds. Les décisions prises ces derniers temps-ci de collaborer avec la Fédération de Russie sont des décisions hautement consenties, libres, n'est-ce pas, indépendantes et régaliennes. Il est hors de question que nous songeons encore dans le dictat où on nous impose quoi que ce soit.
Sur fond de problèmes sécuritaires au Sahel, on entend de plus en plus de personnalités africaines parler d'une force militaire antiterroriste de la CEDEAO. Comment voyez-vous cette idée? Est-elle réaliste? Ne voyez-vous pas le risque que des missions militaires internationales dans la sous-région soient simplement remplacées par celles sous l'égide de la CEDEAO ?
Écoutez, là, vous me posez une question assez pertinente. Une question assez pertinente et qui, du point de vue sécuritaire, devait même interpeller, n'est-ce pas, nos chefs d'État. Qu'ils vous souviennent que cette question, n'est-ce pas, de la création d'une force, soit-elle antiterroriste ou pour parer à d'autres éventualités, ne date pas, n'est-ce pas, de ces dernières années. Cela remonte à l'UIA, l'Union africaine, où d'ailleurs l'ancien président de la transition, le général Sékouba Konaté de la Guinée-Conakry, avait été sollicité, n'est-ce pas, pour mettre sur pied cette force. Cela est resté morte. Vous savez combien de fois les décisions en Afrique, il faut parer à toute éventualité, il faut mettre un peu de forcing, n'est-ce pas, pour avoir des résultats. Il n'y a pas pu avoir un résultat au niveau de l'UIA, mais voilà maintenant ces derniers temps-ci, qu'à l'issue de la rencontre, suite à la tournée du président Macron dans la sous-région ouest africaine qui le menait, n'est-ce pas, du Bénin en passant par d'autres pays en allant jusqu'au niveau de la Guinée. Bissau, il a eu à rencontrer celui qui préside d'ailleurs jusqu'à là, au destiné de la CEDEAO, à savoir le général Sissoko Ambalo, président de la Guinée-Bissau, avec lequel il a été évoqué à Mondo Vision la création d'une force anti-putsch. Je précise, la création d'une force anti-putsch. Et après, très rapidement, ils se sont ravivés pour parler d'une force antiterroriste, vu que le président Bissau-Guinéen sortait lui-même d'un putsch manqué. Toute analyse faite, nous nous sommes rendus compte qu'au fait, ce genre de force devait servir, ma foi, n'est-ce pas, à protéger d'abord les régimes qui sont, n'est-ce pas, tout tremblotants là, qui tremblotent, qui ont la tremblote, qui risque de voir le phénomène malien en sorte de phénomène de contagion. D'autre part, il fallait quand même aussi se rendre compte que c'était une annonce à Mondo Vision qui était une annonce non concertée. La décision est partie de manière unilatérale du président Ambalo, qui a d'ailleurs même surpris tous les observateurs militaires, analystes, stratégiques, géostratégiques, militaires de toute la sous-région. Très rapidement, le politique a pris de l'avance sur cette idée. Il y a eu plusieurs sommets, au cours de laquelle cela a été acté, mais je vous rappelle ici que précédemment, à cette annonce au niveau de ce sommet-là pour officialiser la question, le même problème s'est posé au dernier sommet de l'Union africaine à Malabo, où c'est que le président Bissau-Guinéen avait demandé, n'est-ce pas, à la tenue de ce sommet-là, qu'il soit acté la création d'une force. Et comme à l'accoutumée, certains de nos chefs d'État s'entendent que sur leur désaccord, ben écoutez, ce sommet-là a fini à queue de poisson, sans communiquer presque, n'est-ce pas? Il était question d'acter, n'est-ce pas, une décision sur la création d'une force antiterroriste et d'autre part sur la création, n'est-ce pas, d'un comité qui veille à, n'est-ce pas, à la perpétuation du troisième mandat. Et très rapidement, ceux qui en avaient l'ambition de continuer, n'est-ce pas, à s'éterniser au pouvoir, ont mis des blocages. Ceux qui ne voulaient pas voir une force antiterroriste, n'est-ce pas, venir s'installer à leur porte, se sont braqués. Et voilà, les résultats ont donné ce que nous connaissons. Aujourd'hui, écoutez, nous pensons que, pour ma part, je pense que c'est une bonne idée d'avoir une force antiterroriste, je précise bien antiterroriste, mais si cette force-là doit s'ériger en une force anti-putsch, je crains que cette force-là est fort à faire parce que je ne vois pas n'est-ce pas, des gens sous la poussée populaire prennent le pouvoir, n'est-ce pas, et que une fois soit, dit-on, venant de la CEDEAO, puisse décider d'aller dans ce pays-là, dire vouloir restaurer l'ordre. Je pense que ça va pousser vers un déchirement. Les populations qui aujourd'hui sont déterminées, puisque nous vivons au sein de ces populations-là, risquent, n'est-ce pas, à leur tour de prendre des armes pour combattre ces forces, et ça risque de sombrer dans un vacarme qui ne dira pas son nom. Donc la CEDEAO, y compris ceux qui ont eu l'idée de cette force antiterroriste, devient bien préciser les choses, qu'on sache si c'est une force antiterroriste ou si c'est une force anti-putsch. Maintenant, comment nous voyons l'idée, n'est-ce pas? Je pense que si c'est, comme je vous l'ai dit, si c'est une force antiterroriste, ben oui, aujourd'hui, toute la sous-région est frappée par le phénomène du terrorisme et il va falloir que de manière collégiale et de manière communautaire, n'est-ce pas, et stratégique, qu'une armée ayant la même synergie d'action, n'est-ce pas, une unité, une force, une brigade, un bataillon, un régiment, ayant la même synergie d'action sur tous nos États, soit créée, ne serait-ce que pour parer au terrorisme. Je précise bien au terrorisme. Maintenant, pour ce qui est des coups de force et autres, je pense que c'est aussi des actes non seulement militaires, mais qui relèvent d'une portée politique. Et cela pourrait être considéré comme une ingérence si tel est que la CEDEAO décide d'envoyer des forces à ce niveau. Maintenant, les risques de la mission militaire, les risques du départ, n'est-ce pas, des missions militaires internationales dans la sous-région, remplacées par une éventuelle force ou bataillon ou régiment antiterroriste, mais je pense que pour moi, cela augure, n'est-ce pas, d'un bon lendemain, d'un lendemain meilleur, en ce sens-là qu'il faudra donner la possibilité, comme l'a souvent dit, n'est-ce pas, le feu maréchal Idriss Déby Itno, qui d'ailleurs a donné sa vie pour ce combat-là, n'est-ce pas, les Africains puissent avoir la possibilité de se défendre eux-mêmes. Je pense que c'est justement dans ce cadre que les nouvelles autorités au niveau du Burkina Faso prennent leurs responsabilités en demandant à France de rentrer et en recrutant massivement au niveau de l'armée et des VDP. Vous savez ce que sont que les VDP, ce sont des civils qui sont pris, formés, armés pour parer de manière préventive, n'est-ce pas, à toute attaque terroriste. Donc je pense que le Burkina est en train d'initier une nouvelle donne en matière de lutte contre le terrorisme. Cela est à saluer. Il faut que les pays qui viennent en donner de leçons viennent plutôt dans le cadre de la collaboration, une collaboration franche, sincère, n'est-ce pas, à tout point de vue, à tout égard, n'est-ce pas, et sans dictat d'ailleurs, afin que vraiment la lutte contre le terrorisme soit quelque chose d'acté. Mais je voudrais relancer un peu votre réflexion sur un certain nombre de pays qui ne sont pas du tout frappés par le terrorisme, qui pourtant depuis des années, n'est-ce pas, ont des terroristes à leur porte. Je vous donne un seul cas. Prenez le cas de la Mauritanie, où pratiquement vous n'entendez jamais ce genre de choses. Comment les Mauritaniens font-ils pour avoir ce genre de paix? Alors, cela relance un peu nos discussions sur le fait que la CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples, une CEDEAO qui respecte, n'est-ce pas, les aspirations de ses populations, et partant, avoir des dirigeants qui, dont l'aspiration n'est pas personnelle, mais doit être une aspiration populaire, et veiller à ce que, bon, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, par exemple, et plus particulièrement d'une éventuelle force anti-putsch, de veiller à ce que les populations, n'est-ce pas, leurs 5 besoins fondamentaux, accomplis, que les populations ouest-africaines arrivent à se soigner, se loger, se vêtir, s'instruire, n'est-ce pas, et puis voilà, etc., etc. Donc c'est vous dire que, en conclusion, l'Allemagne sortant du Sahel, je ne pense pas qu'il y aurait des impacts, n'est-ce pas? L'armée malienne aujourd'hui est régalienne et responsable. L'amunissement est d'ailleurs décrié à tout point de vue, à tout égard. Et les autorités maliennes ne cessent de vouloir arrêter, n'est-ce pas, les contrats de l'amunissement. Vous référez-vous aux dernières conclusions des travaux, n'est-ce pas, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, où d'ailleurs une dame dont on ne connaît ni la provenance ni l'ordre de mission s'est incrustée au niveau des Nations Unies sous le couvert d'une ONG. Et voilà. Voilà comment on institue le bordel dans nos pays. Il va falloir arrêter tout ça et surtout refuser le diktat, car, comme l'a dit le président Assimi Goïta du Mali, la dignité malienne, africaine, n'est plus négociable. Nous sommes responsables de nos terres, nous sommes responsables de nos richesses. Nous en faisons ce que nous voulons, au même titre que vous aussi, n'est-ce pas, les Occidentaux, vous faites ce que vous voulez de vos pays, de vos chars, de vos armements et autres. Il va falloir apprendre à respecter les chefs d'État africains, en tout cas ceux-là qui ont la volonté, n'est-ce pas, manifeste, de rehausser, n'est-ce pas, la dignité de leur peuple.
C'était Souleymane Hamzat, consultant international béninois spécialisé dans les questions de défense. Il a commenté à notre micro le départ anticipé des militaires allemands du Mali. Chers auditeurs, Zone de Contact, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.